Chapitre 14. La conférence de presse dans la grande salle de réunion de la police a débuté. Le responsable de la communication a débité un flot d'informations et la séance peut s'ouvrir aux questions. Une odeur morne de café tiède, de biscuits aux épices et de vêtements d'hiver flotte dans l'air. Des micros siglés de grandes chaînes de télé et de radio s'alignent sur la table principale. L'inspecteur Yuna Lina est assis entre Noah Hellman et une femme élancée aux lunettes à monture rouge. Noah se lève, rejoint d'un pas vif le pupitre, se passe une main dans les cheveux et jette un sourire discret à l'assemblée de journalistes. Il ne porte ni uniforme ni galon doré, juste des baskets, un jean et un t-shirt gris sous un pull rouge en coton. Comme toujours, à son arrivée au contrôle de sécurité, Agnetta a été mise à l'écart et fouillée. Lorsqu'elle est apparue dans le hall, un journaliste de TV4 lui a aboyé de ne pas rester plantée sans rien faire alors qu'un café venait d'être renversé sur une table. Elle n'a rien dit, est allée chercher des serviettes aux toilettes et a nettoyé. Aujourd'hui, elle est assise au deuxième rang, côté droit. Elle a déjà couvert deux conférences de presse pour le podcast True Crime auquel elle collabore. Mais cette fois, l'ambiance est différente, un peu plus tendue, plus réelle. Peu d'idées, nées dans les heures troubles de la nuit et gonflées par quelques verres de vin, survivent à la lumière froide du matin. Mais lorsqu'Agnetta est descendue à la cuisine pour son premier café, Bernard avait recouvert la table de trois rangées de notes. La première résumait tout ce que les médias avaient publié sur l'affaire. La deuxième rassemblait les informations transmises par la police. La troisième concernait ce que Hugo leur avait dit.
Je ne suis pas fou, s'était réjoui Bernard. J'y crois vraiment.
Tu crois à quoi? Qu'on va écrire un livre ensemble?
Oui, exactement,
a-t-il répondu en enfournant une plaque de scone. Le plus important, c'est Hugo, qu'on puisse raconter son histoire de l'intérieur. Ensuite, il y a toi, une journaliste spécialisée dans les affaires criminelles, même si ton travail n'est pas encore reconnu. Et enfin, il y a moi. J'ai un peu d'expérience comme écrivain. Parfois, j'écris même pas trop mal. La veille au soir, Bernard avait prudemment abordé l'idée avec Hugo, dans la voiture, après être allé le chercher chez Olga. Hugo était ralenti par ses médicaments, mais quand Bernard lui avait promis un droit de veto sur tout ce qui serait publié, il avait simplement levé un pouce. Dans la salle de conférence, un journaliste d'Aftonbladet se lève. Visage bouffi, barbe blanche en broussailles. Il renifle bruyamment.
D'après ce que vous dites, les deux meurtres semblent liés.
Vous connaissez la réponse, lance Noah avec un sourire. Nous examinons cette piste.
Mais deux meurtres à la hache en 4 jours,
nous étudions la question, le coupe Noah en désignant une femme de l'agence de presse TT qui lève la main.
Est-ce qu'on doit voir ça comme une escalade dans la brutalité des règlements de compte entre réseaux criminels?
Reprend le journaliste. Aucun lien évident pour l'instant. Mais nous n'écartons aucune piste.
Quel autre motif pourrait-il y avoir?
Demande-t-il en reniflant à nouveau. Nous ne spéculons pas sur une enquête en cours.
Généralement, c'est votre travail, dit Noah avec une franchise presque désarmante. Un léger rire parcourt la salle. Avant que le silence ne revienne, Agnetta lève la main. Elle attire à peine l'attention de Noah quand le journaliste d'Aftonbladet reprend.
Une de mes sources confirme que les victimes ont été sexuellement agressées.
Nous ne commentons pas les détails de l'enquête, répond Noah, déjà tourné vers la femme de Tété.
Vous aviez un suspect en détention, dit la femme d'une voix rauque.
Selon la presse du soir, répond Noah.
D'après nos sources, il a été relâché. A-t-il été disculpé ou est-il toujours soupçonné?
Il était en détention lors du second meurtre.
Et il a été arrêté sur la première scène de crime. Est-il un témoin oculaire?
Vous faites semblant d'oublier ce qu'est le secret de l'instruction, répond Noah avec un sourire.
C'est notre travail, dit-elle.
Et le nôtre, c'est de conclure cette conférence et de vous remercier pour votre présence.
Une dernière question,
l'interrompt Agnetta en se levant.
D'accord, répond Noah avec un sourire poli.
Agnetta sent la tension lui nouer le ventre. Mais son bêta bloquant, pris 1 heure plus tôt, maintient son pouls calme et sa respiration régulière. Le témoin dont on parle n'était-il pas mineur et arrêté sur des bases plutôt floues? Il y a eu une perquisition chez lui. Il a été blessé en détention parce que son diagnostic médical n'a pas été pris en compte, et si ça s'est produit, c'est regrettable. Ça ne devrait pas arriver et cela fera l'objet d'un examen interne. Pour le reste, nous avons suivi les procédures comme nous devons le faire, même si parfois cela implique que des innocents sont détenus quelques jours, répond Noah d'un ton chaleureux. Un deuxième meurtre a déjà eu lieu, continue Agnetta. Je suppose que vous allez l'interroger sur ce qu'il a vu la nuit du 26 novembre, mais il a déjà été interrogé. La coupe Noah. En tant que suspect. Mais ma question est, comment allez-vous le protéger s'il décide de vous aider? Il a plus de 15 ans. Il est donc soumis à l'obligation légale de témoigner. Mais en réalité, c'est une question de confiance. J'espère que nous avons tous confiance dans le fait que la police fait son travail, conclut Noah en saluant l'audience, puis en quittant le podium. Le responsable de la communication prend le relais pour conclure. Agnetta se rassied. Bernard lui a demandé d'enregistrer la conférence et de noter immédiatement ses impressions. Tandis que les journalistes quittent la salle dans un brouhaha, elle écrit quelques phrases. Qu'elle s'est sentie un peu offensée quand d'autres ont évoqué Hugo, qu'une goutte de sueur tombée du front de Noah a atterri sur le micro avec un petit bruit mat, et que Yuna Lina n'a pas prononcé un seul mot de toute la conférence malgré les regards insistants et un peu implorants de son supérieur. Elle est en train de tourner une page de son carnet quand elle voit Yuna s'approcher entre les chaises. « Vous êtes Agnetta Nkomo, n'est-ce pas ?»« Est-ce que c'est vrai que les victimes ont été abusées sexuellement » demande-t-elle. « Non, rien ne le suggère. »« D'accord, merci. »« En fait, j'ai rendez-vous avec Hugo demain, » dit Yuna en retournant une chaise pour s'asseoir. « Vous auriez pu le dire pendant la conférence de presse. » Je ne veux pas qu'il soit mis sous les projecteurs. Il devrait bénéficier de la protection des témoins. C'est vrai. Mais le processus est long et complexe. L'important pour l'instant, c'est que vous soyez prudent. Ne publiez rien sur ce qu'il va faire, ni sur l'endroit où il se trouve. Il y a une menace concrète? Non. Mais il reste le seul témoin. Et, comme vous l'avez dit, il n'a pas encore été interrogé.
Vous pensez qu'il peut vous être utile?
On ne sait jamais. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Hugo pourrait se souvenir de ce qu'il voit en marchant dans son sommeil, puisqu'il arrive à ouvrir des portes, à suivre un chemin, à franchir des barrières.
Je comprends ce que vous voulez dire. Ce n'est pas clair. Quand il était petit, on essayait de le ramener dans son lit. Mais parfois il résistait, il paniquait, voulait sortir à tout prix. Et si on le réveillait à ce moment précis, il se souvenait de ce qu'il voyait. Mais le lendemain, tout avait disparu.
Donc, c'est en lui. Mais il perd le contact avec ses images, dit Yuna.
C'est exactement ça. Et cette nuit, il a marché dans son sommeil chez sa petite amie. Elle l'a réveillé juste avant qu'il ne saute par-dessus la balustrade de son balcon. Et là, il a parlé d'une caravane.
Qu'est-ce qu'il a dit?
On ne sait pas. Il ne s'en souvient pas. Et sa petite amie, on ne la connaît pas vraiment. En fait, pas du tout.